Alors aujourd'hui, je vous propose une balade dans le désert californien, quelque part à l'est de Los Angeles. Depuis une vingtaine d'années, entre les cactus, il y a des motards tatoués, des hippies, jeunes et vieux et divers marginaux qui fabriquent là-bas un drôle de rock'n'roll, enjoué et nonchalant et en même temps un peu grinçant. Je suis allé à LA pour faire du rock'n'roll, mais en route, il a fallu que je vende mon âme. C'était Wanna Be in LA, la meilleure chanson d'un album publié en 2008 par le groupe Eagles of Death Metal. Alors, oui, vous le savez, leur route a croisé à Paris, dans la salle du Bataclan, celle d'un trio d'assassins suicidaires. Leur nom restera à jamais associé à ce massacre. Mais aujourd'hui, je voudrais les célébrer pour la joie qu'ils ont su apporter à celles et ceux qui les aimaient et qui les aiment encore, évidemment. C'est important, je trouve. Alors, les médias grand public ont parlé au sujet des Eagles of Death Metal de rock californien. Alors, d'un point de vue géographique, c'est peut-être exact, mais musicalement, pas tant que ça. En fait, ces musiciens qui, pour rigoler, ont décidé de s'appeler les Eagles, hein, comme le groupe du death metal, hein, les Eagles du death metal, sont nés dans une région désertique qui est située à 200 km environ à l'est de Los Angeles. La ville de Palm Desert est une espèce d'oasis en plein désert, un peu, si vous voulez, comme Las Vegas. C'est une cité récente. On l'a appelée Palm Desert, hein, palm comme palmier, parce que vers le début du siècle dernier, on y a planté des dattiers. Il y avait alors là qu'une tribu d'Indiens en voie d'extinction, les Cahuillas, et quelques familles hispaniques avec qui ils s'étaient croisés. Et puis, depuis les années 1950 environ, c'est devenu une destination à la mode, très prisée par les gens qui ne supportent pas le froid en hiver. À Palm Desert, 40 000 habitants environ, on trouve beaucoup d'hôtels et de résidences de luxe, un immense golf, et puis ce qui va avec, beaucoup de riches et de retraités. Et Bill Gates, notamment, a une propriété là-bas. Mais, il n'y a pas que ça, parce que dans les alentours sont éparpillés des villages très isolés qui ont attiré une communauté de musiciens marginaux qui avaient envie de faire du bruit sans personne autour, évidemment, pour les embêter. C'est là qu'à la fin des années 80, Josh Homme, ça s'écrit comme homme en français, un garçon originaire d'une famille plutôt aisée de la petite ville de Joshua Tree, hein, c'est un peu plus au nord, est parti créer un groupe avec deux copains de lycée. Ce groupe s'appelait Kyus, K-Y-U-2-S. En anglais, ça sonne presque comme le mot chaos, hein, chaos. On va l'entendre tout à l'heure. Mais je vous propose d'écouter en premier un autre groupe qui a été formé une dizaine d'années plus tard par le même Josh Homme, un groupe qui s'appelle Queens of the Stone Age, un reine de l'âge de pierre. Il est le premier à avoir popularisé au-delà d'un public spécialisé ce rock'n'roll du désert qui est à la croisée de plusieurs courants. Le psychédélisme planant, hein, on est en Californie, le blues, le hard rock, et puis aussi les rythmes et sons machiniques de la musique électronique et industrielle, le tout lié par un sens, alors oui, très californien, de la mélodie enfantine et entraînante. Ça vous paraît bizarre? Eh bien, ça l'est. On écoute Queens of the Stone Age dans Go With The Flow, extrait de leur troisième album, paru en 2002, Songs For The Deaf, chanson pour les sourds.
I can't make you hang around.
Dead End Friends. C'était la voix et la guitare du Californien Josh Homme au sein d'un trio qui n'a fait qu'un seul album en 2009, Them Crooked Vultures. On pourrait traduire ça par cette bande de vautours escrocs. Un trio à la composition aussi exceptionnelle qu'inattendue. À la batterie, on trouvait Dave Grohl, un musicien qui avait connu la gloire très jeune, puisqu'à 20 ans à peine, il jouait au sein du trio Nirvana avec Kurt Cobain avant de fonder son propre groupe, cette fois en tant que guitariste et chanteur, les Foo Fighters. Et puis, à la basse et au clavier, le vétéran anglais John Paul Jones, hein, qui aurait pu être son père, un musicien qui s'était illustré au sein de ce qui, pour beaucoup, reste le meilleur groupe de rock de tous les temps, à la fois inspiré par le blues, le rock psychédélique et le folklore des îles britanniques et d'Afrique du Nord. Je veux bien sûr parler de Led Zeppelin. Mais moi, je dirais qu'en filigrane, chez Them Crooked Vultures, on distinguait surtout l'empreinte d'un autre trio légendaire, 100% britannique aussi, Cream, le véritable inventeur du hard rock. Beaucoup d'entre vous le savent sûrement, Cream, c'était ce trio actif entre 66 et 68, créé par un extraordinaire batteur de jazz, Ginger Baker. Il avait entraîné à ses côtés un jeune guitariste de blues, pas très connu à l'époque, Eric Clapton, qui avait fait venir un merveilleux bassiste, chanteur et compositeur, le regretté Jack Bruce, et qui, soit dit en passant, était pourtant l'ennemi juré de Ginger Baker, ce qui explique en grande partie pourquoi le groupe n'a pas duré. En tout cas, en à peine plus de 2 ans d'existence et 4 albums, Cream a fait émerger un continent musical absolument nouveau, et comme chez Hendrix, il se mêlait dans ce groupe blues, jazz et psychédélisme, mais même aussi des éléments d'opéra, puisque Jack Bruce avait été formé au chant lyrique. Enfin, pour faire simple, Cream, environ 3 ans avant Led Zeppelin, a inventé le hard rock. C'est par exemple le premier groupe qui a recouru sur scène à une surenchère d'amplification. Alors pour résumer, la grande ambition de Josh Homme a été de créer, un quart de siècle plus tard environ, un hard rock psychédélique moderne ayant cette force-là. Au début des années 90, Homme et ses copains du groupe Caius organisent dans la région aride où ils se sont installés ce qu'ils appellent des desert parties, hein, des soirées, des fêtes dans le désert. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben on branche les instruments sur des groupes électrogènes, on prend de l'herbe, du peyote, et vous savez c'est ce petit cactus dont on extrait un puissant psychotrope, la mescaline, du LSD, des champignons magiques et peut-être d'autres choses que je connais pas, et on improvise. Alors ces fêtes attirent qui ? Les vieux, les jeunes hippies installés dans le coin, des motards sauvages, enfin toutes sortes d'esprits libres et vagabonds. Et à partir de 1997, Josh entraîne ce petit monde à Joshua Tree, là où il y a un grand parc naturel, hein, c'est connu, et il les entraîne dans un ranch, le Rancho de la Luna, équipé en studio. Et là, les musiciens passent, ils se rencontrent, ils composent comme ça des chansons sur le pouce, assis sur le porche, voilà, j'y étais pas mais j'imagine. Et il y a une série de disques qui vont paraître, intitulés The Desert Sessions, hein, les séances du désert. Et parmi les musiciens de passage, il y a une musicienne très connue, l'anglais PJ Harvey, dont il se dit qu'elle aurait eu peut-être une petite romance avec Josh Homme. On va l'écouter dans A Girl Like Me, un titre publié en 2003. Il a fallu une fille comme moi pour te mettre à genoux. C'est ce qu'elle dit, c'est assez érotique en tout cas.
Vertigo Trip sur France Inter.
Hanging Tree, arbre à pendu, ben c'est Vertigo Trip sur France Inter, une chanson extraite du troisième album du groupe Queens of the Stone Age. L'album c'est Songs for the Deaf. Elle avait été créée l'année précédente, cette chanson, lors d'une des Desert Sessions dont je vous ai parlé, avec le chanteur Mark Lanegan. C'est un chanteur à la voix caverneuse, hein, vous l'avez entendu. Lui, il ne vient pas du tout du désert, il est originaire, comme Kurt Cobain, hein, qu'il a d'ailleurs bien côtoyé, des régions rurales de l'état de Washington, vous savez, c'est au nord de la côte ouest des États-Unis. Mark Lanegan a longtemps chanté au sein d'un groupe, Screaming Trees, un groupe qui a mélangé punk rock, blues et metal. On peut dire de lui que c'est un survivant qui est passé par plusieurs cures de désintoxication, je ne sais pas au juste combien. En tout cas, il est l'auteur d'une œuvre impressionnante, 9 albums solo et aussi d'une quantité de collaborations. On l'a comparé à Jim Morrison des Doors, à Jeffrey Lee Pierce du Gun Club et aussi à Lou Reed et Leonard Cohen. Bon, c'est peut-être beaucoup pour un seul homme, mais ça n'empêche pas d'être très très bon et on le retrouvera d'ailleurs à nouveau tout à l'heure. Je voudrais maintenant vous faire découvrir deux titres très rares qui n'ont pas été faciles à déterrer. Il faut que je vous explique en deux mots pourquoi je suis allé fouiller par là. Voilà. Parallèlement à ce rock du désert californien dont je vous parle, il y a aussi un courant plus vaste qu'on a appelé le stoner rock. Alors le stoner, en argot, ça désigne un individu alcoolisé et drogué vivant comme un marginal. Alors pour être franc, c'est une étiquette que Josh Homme et ses copains n'ont jamais accepté. Qui les exaspère, mais enfin elle s'est imposée vers la fin des années 90. Parce que finalement tout ça remonte à loin, une dizaine d'années auparavant, à la fin des années 80, il y avait déjà des groupes épars, très peu connus, hein, carrément marginaux, qui avaient déjà attisé la flamme d'un blues rock nocturne, étrange, émanant comme ça des grands espaces désertiques du sud des États-Unis. C'était notamment le cas du très remarquable Thin White Rope, un groupe qui venait de la région du nord de San Francisco. Thin White Rope, petit fil blanc, il paraît que l'écrivain William Burroughs avait trouvé cette expression pour désigner quoi ? Eh bien, l'éjaculation masculine, voilà. Animé par un chanteur à l'étonnante voix grinçante et chevrotante, Guy Kayser, hein, K-Y-S-E-R, un fanatique des Stooges, hein, le groupe d'Iggy Pop, qui avait grandi dans le désert de Mojave, en Californie. Ce groupe avait été le premier à mêler de façon étrange blues psychédélique, ambiance lunaire, créant ainsi une sorte d'évocation oppressante des espaces vides et désolés. On écoute Guy Kayser et Thin White Rope dans Valley of the Bones, extrait de leur deuxième album Moonhead. Ça remonte à 1987 et c'est rare.
She got me when she got her dress on, got it on. Darling, isn't it the masters of reality?
Mr. Who?
C'était une sacrée rareté, ce titre remontant à 1992. Il s'agissait d'un groupe qui s'appelle Masters of Reality, formé par le New-Yorkais Chris Goss, devenu par la suite un grand copain et collaborateur de Josh Homme. She got me when she got her dress on. Elle m'a eu quand elle a passé sa robe. Hein. C'est extrait de l'album Sunrise on the Suffer Bus. Alors, Chris Goss, c'est un type très baraqué, au crâne chauve, avec des anneaux à chaque oreille, à la façon d'un pirate. Et comme son copain Homme, c'est un remarquable guitariste de blues au style aventureux. On l'a surnommé, paraît-il, le parrain du stoner rock, mais ça n'a pas trop l'air de lui plaire. Cet amateur du groupe Black Sabbath, hein, d'où le nom de sa formation qui est tiré du titre d'un album de ce groupe, a surtout cherché, enfin en tout cas c'est ce que j'entends, à créer à la fin des années 80 un cream moderne, enfin moderne pour l'époque, d'où son affinité avec Caius, hein, le premier groupe de Josh Homme. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le classicisme et l'autorité naturelle qui se dégage de ce titre des Masters of Reality, devenu alors totalement introuvable. J'ai pu me le procurer que grâce à mon camarade Manuel Rabas, collaborateur du Dictionnaire du Rock, qui a lancé un SOS sur un forum internet d'amateurs spécialisés. Alors merci beaucoup Manuel et pardonnez la qualité pas géniale du son. Alors chose remarquable, Chris Goss était arrivé à recruter pour l'enregistrement de cet album nul autre que Ginger Baker, le batteur de Cream, ce qui a pas dû être facile vu le légendaire caractère épouvantable de ce musicien. En tout cas, vous avez pu entendre que le jeu de Ginger Baker avait gardé toute sa force et sa puissance juvénile. Il l'a d'ailleurs montré lors de la réunion exceptionnelle de Cream au Royal Albert Hall de Londres en 2005. Bon, je vous ai parlé de Caius. On va enfin écouter ce groupe dans El Rodeo, extrait de l'ultime album du groupe publié en 1995, And the Circus Leaves Town. Voilà, ça y est, le temps est venu de faire un peu de bruit sur France Inter. Mm-hmm. Vous avez sans doute été nombreux à reconnaître la voix de PJ Harvey à nouveau dans ce titre Powdered Wig Machine, extrait de la dernière des Desert Sessions enregistrée au Rancho de la Luna à Joshua Tree en 2003 avec Josh Homme bien sûr. Je vous propose de rester avec PJ Harvey et de l'écouter cette fois en duo avec Mark Lanegan, que vous avez entendu tout à l'heure dans un extrait de l'album que le chanteur a publié en 2004, Bubblegum, sans doute un de ses meilleurs. Et cette chanson évoque magnifiquement, je trouve, ses ambiances nocturnes et désertiques, on ne sait pas trop ce qui va se passer, quelque chose de magique ou d'inquiétant, enfin peut-être les deux à la fois d'ailleurs. On retrouvera aussi, après le rock'n'roll mélodieux en même temps, curieusement froid et bouillonnant à la fois, comme le mercure de Queens of the Stone Age dans Little Sister, mais d'abord Mark Lanegan et PJ Harvey dans Come to Me, c'est sur France Inter.
Thank you. silent. The devil guides my hand. Well, I just love to slit them throats and creep all around this land.
Midnight Creeper, un blues rural et étrangement anachronique, dû à nul autre qu'à Jesse Hughes avec son groupe Eagles of Death Metal, un titre du premier album de ce groupe, je crois qu'il remonte à 2004, et il s'appelait Peace, Love, Death Metal. Bon, alors il me reste un peu de temps, je voudrais quand même glisser un ou deux mots sur Jesse Hughes, hein, c'est le grand pote de Josh Homme, qui était avec ses copains sur la scène du Bataclan. C'est sans doute le meilleur ami de Josh Homme. En tout cas, Josh est venu à sa rescousse. Oui, je crois qu'on peut dire ça sans exagérer. Il y a une quinzaine d'années, et il l'a emmené à Palm Desert, parce que Jesse Hughes est originaire de Caroline du Nord. Hein, c'est plutôt le sud profond. C'est pas du tout la culture californienne. Il est arrivé à emmener Jesse Hughes à Palm Desert pour le sauver de la dépression et de l'autodestruction. Il venait en effet de se faire larguer. Il avait appris que sa femme le trompait, il était tombé dans l'abus de certaines substances. Alors, vous savez sans doute que le groupe U2 a fait monter sur scène Jesse Hughes et les Eagles of Death Metal pour ses deux derniers concerts qui avaient été reportés à la suite des massacres parisiens. Et ça a été quelque chose pour le public, hein, je crois qu'il y avait 16 000 personnes, de voir ce type... très étonnant. En général, on le voit tatoué avec des espèces de salopettes. Là, il était en complet tout blanc. Il a parcouru la longue passerelle prolongeant la scène. Je crois que c'est la première et la dernière fois que ça a dû lui arriver. Et après avoir chanté la chanson de Patti Smith, People Have the Power, avec Bono et U2, ils ont chanté une chanson eux-mêmes. Et Jesse Hughes n'arrivait pas à chanter tellement sa voix s'étranglait. Alors c'est un curieux type qui navigue entre les extrêmes et qui s'élance comme un funambule sur le fil tendu de sa folie. Et dans la tradition de Little Richard et Jerry Lee Lewis, ce chrétien exalté est capable de faire des sermons enflammés sur Satan et les flammes de l'enfer qui attendent les pécheurs, et puis le lendemain, de poser à poil pour une séance photo avec sa copine, actrice porno, tatouée de partout. Alors pour lui faire du bien, et nous faire du bien, je vous propose, avant de nous quitter, d'écouter This Lullaby. C'est une berceuse chantée par Mark Lanegan avec Queens of the Stone Age, et ça ouvrait en 2005 l'album Lullabies to Paralyze. C'était la voix de Mark Lanegan avec Queens of the Stone Age, This Lullaby, c'est cette berceuse. Ben voilà, j'espère que ça peut faire plaisir à des gens. Tout de suite après les informations, vous retrouverez Laurent Goumard et son nouveau rendez-vous. Et je vous dis à demain.